La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
Et nous revoici donc dans cette midinale du 24 octobre 2022, on est toujours en 2022, et on se retrouve pour s'informer autrement avec Kevin qui va nous parler du non-recours aux prestations sociales.
Ouais, tout à fait. J'ai entendu samedi dernier, samedi midi, dans Secret d'Histoire, non, Secret d'Info, autant pour moi, c'est sur France Inter, c'est une émission qui est pas mal, en lien avec la cellule d'investigation de Radio France. Un sujet sur le non-recours, donc ça s'appelle le non-recours, l'envers caché de la fraude sociale. Vous pouvez le réécouter sur le site de France Inter, on vous mettra le lien. Et parallèlement, ils font toujours un petit texte complémentaire, donc si vous n'aimez pas la radio, vous pouvez lire le texte tout simplement. Je vais essayer de le résumer et puis on va s'écouter un petit son après, mais bien après, à la fin du truc. Donc, dans ce reportage, il rappelle que près d'un tiers des usagers ne réclament pas les prestations sociales auxquelles ils auraient droit. Et cela représente plusieurs milliards d'euros économisés chaque année par l'État, soit bien plus que le montant estimé de la fraude sociale. Il cite plusieurs exemples que vous pourrez retrouver, donc, notamment une mère de famille... une mère d'une petite atteinte de trisomie 21 qui consacre une partie de son temps à remplir plusieurs dossiers de 20 pages pour accéder à des heures d'assistance à l'école ou pour disposer d'une aide financière complémentaire pour les séances de psychomotricité. Et également une personne qui est en reconversion professionnelle et qui souhaite en fait... quasiment ne plus dépendre de Pôle emploi, tout simplement parce qu'elle a été avertie d'un trop perçu, qu'elle ne peut pas payer, qu'elle ne peut pas s'arranger non plus avec Pôle emploi malgré de multiples démarches, et qu'en gros, ça montre aussi que non seulement les gens ne touchent pas, les prestations auxquelles ils ont droit, mais en plus de ça, quand ils les touchent, ça les fout dans la merde. Et que ça donne pas vraiment envie de faire ces démarches-là, quoi. Après, il y a toute une partie sur le fait que toutes ces demandes de prestations soient passées maintenant par des demandes numériques. Notamment avec la non-ouverture des guichets, il cite très bien que les guichets ne sont plus accessibles. En fait, on peut plus se pointer... on peut plus pointer à la CAF par exemple dans certains cas sans rendez-vous, on peut plus pointer aux impôts sans rendez-vous, etc. Et que donc là je vais juste citer la sociologue Clara Deville. Ce mouvement s'est accompagné de deux phénomènes. D'une part, il est devenu impossible de venir faire la queue au guichet pour régler un problème, il faut maintenant prendre rendez-vous. Et d'autre part, on assiste à un mouvement de fermeture des agences en milieu rural qui sont désormais toutes situées dans des pôles urbains. Selon un récent rapport de la Défenseure des droits, la numérisation a complexifié les démarches pour 13 millions d'usagers. Les pouvoirs publics ont bien tenté de rectifier le tir. Des agences France Services ont été créées dans les zones où plus aucun service public n'est accessible. À ce jour, on en compte 2379. Seulement, c'est aux collectivités territoriales de les créer et toutes n'en ont pas les moyens. Par ailleurs, les agents présents dans ces structures n'ont pas les compétences requises pour aider les usagers à comprendre quels sont leurs droits. En fait, ce qu'il faut voir dans les agences France Service, c'est souvent... alors, il y a eu le dispositif des conseillers numériques. Conseillers numériques, c'est un travail qui est extrêmement précaire. C'est des créations de postes qui ont été faites, mais pas en direction de travailleurs sociaux. C'est généralement des gens qui déjà étaient dans la merde, donc c'était souvent les anciens contrats uniques d'insertion, en fait, enfin, c'est à peu près l'équivalent. C'est des demandeurs d'emploi longue durée, des personnes comme ça, qui vont aider, mais uniquement, ils précisent, hein, uniquement techniquement, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner la personne à utiliser un ordinateur et à faire sa demande en numérique, mais ils n'ont aucune... ils n'ont aucune formation concernant les droits des personnes, quoi. C'est vraiment ça qui est problématique. Donc si on se retrouve face à un demandeur qui n'a aucune idée de ses droits, en fait, on peut se représenter que le conseiller numérique, il n'en sait pas plus, en fait. Sauf si lui-même a été amené justement à faire ses demandes de prestations. Je recite « Malgré 10 ans d'action pour réduire le taux de non-recours, celui-ci n'a pas baissé. Au contraire, estime Daniel Verger, responsable études et recherche au Secours catholique, qui a publié un rapport en 2021 avec l'Observatoire des non-recours aux droits et services, nous constatons une hausse sur les dernières années pour le RSA et les allocations familiales. Ce qui est assez paradoxal par rapport à la prise de conscience plus forte et que l'on voit au niveau du gouvernement. Pour faire enfin baisser ce taux, l'idée d'une automatisation des versements revient régulièrement sur la table. Candidat en 2017, Emmanuel Macron évoquait déjà le sujet avant d'en reparler en 2022. Et en fait, dans leur conclusion, ils disent que ça va potentiellement se mettre en place, cette espèce de versement automatique, mais que comme on est dans un pays où on passe notre temps à rabâcher qu'on ne veut pas d'assistanat, ce sera quand même soumis à une demande de... en fait, il faudra que la demande... Il faudra quand même qu'il y ait une démarche de la demande de la personne qui doit recevoir ces prestations-là. Et du coup, on va s'écouter un petit son. Alors, ce petit son-là, il est... Enfin, moi, je l'ai retenu parce qu'il est... Il est effarant, c'est autant tout ce qu'on vient de citer, on pouvait en avoir conscience, mais là c'est un petit son sur comment est-ce que sont calculés, comment est-ce que sont budgétisées en fait ces prestations.
En 2014, sous le mandat de François Hollande, le gouvernement a créé ce qu'on appelle la prime d'activité. C'est un complément destiné à tous ceux qui touchent moins de 1500 euros par mois. Le député socialiste Christophe Sirugue est alors missionné pour mettre en place cette prime. Il négocie avec Bercy et lorsque le dossier est bouclé, il en parle à l'ancien député Michel Pouzol.
Christophe Sirugue vient me voir un jour, il me dit « Michel, ça y est, on a gagné, on a créé la prime d'activité, ça y est, c'est créé ». Et il me dit « Oui, oui, Bercy inscrit 5 milliards au budget ». Donc c'est pas une petite somme, hein, 5 milliards. Et là, je rate, je dis « Mais attends, il me semble que si tout le monde y fait appel, c'est 10 milliards qu'il faut mettre sur la table ». Et il me dit, un peu gêné, je me souviens « Oui, mais tu comprends, Bercy estime que c'est l'effort qu'on peut faire aujourd'hui, c'est quand même mieux que rien ». Donc là, on lance un dispositif absolument nécessaire pour ceux qui en ont besoin. Et on espère que la moitié de ceux qui y ont droit ne le demanderont pas. Donc c'est clairement faire des économies sur le dos des pauvres, clairement.
Ah oui, donc on intègre dans le financement d'une mesure un taux de non-recours.
Eh bien oui, puisqu'on budgète 5 milliards là où en théorie il en faudrait 10. Mais si ça peut paraître surprenant, en réalité c'est un grand classique. C'est en tout cas ce que m'a expliqué la sociologue Clara Deville.
Quand on fait une réforme, les dernières en date, la prime d'activité, ou même si on remonte à la réforme du RSA, il y a des simulations qui sont faites pour savoir combien ça va coûter, pour budgéter, en fait. Et donc, on projette la prestation en question en population générale avec un taux de non-recours qui est connu et qui fait partie du budget qui va être prévu pour l'allocation en question. Donc, les lignes budgétaires, les enveloppes budgétaires pour le RSA ou pour les autres prestations sont prévues avec des hypothèses de simulation qui comprennent des taux de non-recours.
Voilà, et en fait, là, on peut conclure en fait que... Donc, on voit qu'il y a un non-recours et on peut éventuellement penser qu'il est organisé. En fait, on fait tout pour que les gens... n'y ait pas accès, bah déjà pour le côté, on l'a dit, déjà pour le côté, on veut pas d'une France de l'assistanat. Et en plus de ça, si tout le monde y avait recours, ça mettrait l'État ou les départements gravement dans la merde, puisque de toute façon, ils n'ont pas le budget pour le faire, quoi. Donc voilà, c'était une enquête hyper intéressante à écouter en entier. Ça dure 25 minutes. Voilà.
Donc en conclusion, il faut encourager tout le monde à avoir recours à ses droits.
Ouais, c'est ce qu'on aimerait bien faire déjà, par un souci d'égalité. Enfin, on sait très bien que on en connaît hein, des gens qui n'y ont pas accès, soit parce que justement par rapport à l'accès au numérique ou autre. Mais oui, il faudrait peut-être mettre les collectivités ou l'État face à son merdier, quoi. Donc le nez dans le caca, on pourrait faire des campagnes, c'est un peu ce que font certains collectifs sur Brest, hein, que ce soit, enfin, je pense au collectif des chômeurs, c'est des choses sur lesquelles il faut batailler, en tout cas, continuer à batailler. Ouais.
Oui, parce que de toute façon, on a bien compris que l'État, il voulait pas que ce soit automatique, puisqu'il fallait que tu fasses une demande pour que ce soit automatique. Ils vont nous faire une nouvelle pub. Les aides sociales, c'est pas automatique. Voilà. Mais, ouais. Après, c'est souvent des bons articles qui passent là-dessus sur France Inter.
Ouais. Voilà.
Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause musicale à nouveau avant l'agenda, ou est-ce qu'on enchaîne sur l'agenda ?
On va faire une pause musicale peut-être quand même.
Mi-pause musicale. Mi-pause, un peu tôt, non ?
Ouais, c'est un peu tôt.
Peut-être d'autres choses à parler quand même.
Ouais, il y avait.
Si vous n'êtes pas prêt pour l'agenda, moi je veux bien commencer.
Non, mais je veux bien. On avait commencé à parler de l'Iran la semaine dernière et des révoltes en cours là-bas. Je vous cache pas que cette semaine, on n'a pas réussi à choper beaucoup d'infos. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Donc là, c'est plutôt une info qui date quand même de la semaine, quoi. Il y a eu un groupe de. Des colliers, quoi, qui ont été participés. Un événement idéologique qui est organisé dans un lieu connu pour accueillir les manifestants depuis la mort de Mahsa Amini. D'ailleurs, Mahsa Amini, son vrai prénom, c'est Jina. Jina, c'est son nom kurde. Et il faut savoir qu'en Iran, en fait, beaucoup de Kurdes utilisent un autre prénom qui est, comment on dit...
Moins stigmatisant.
Je suis désolé, le terme, c'est pour qu'il soit plus iranien, quoi, mais de ceux qui... Je sais plus comment, enfin bref. Donc son vrai prénom, c'est Jina, mais bon. C'est, donc Mahsa, c'est son nom qu'elle a utilisé. C'est un peu pour cacher leur origine kurde, quoi. Et donc, il y a des élèves qui étaient sur une sortie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Certains élèves ont commencé à crier des slogans contre la discrimination et les inégalités. Et ils ont été victimes de violences et d'insultes par des femmes voilées et habillées en civil. Donc ça, c'est un communiqué qui a été envoyé par le syndicat, qui a été publié lundi dernier. Et de retour à l'école, les élèves ont été battus à nouveau. Pas mal. Et alors, ça va plus loin, parce que c'est déjà assez grave comme ça. Ça n'a pas suffi, parce que malheureusement, parmi les élèves battus, il y a une des élèves, Asra Panahi, qui est décédée à l'hôpital, pendant que les autres continuent à être arrêtés. Donc ça, c'est raconté par les enseignants. Les coups aussi qui ont été donnés ont plongé un autre élève dans le coma. Alors, la télévision d'État s'est empressée de diffuser une vidéo de l'oncle de la jeune Asra, dans laquelle ce dernier assurerait que l'adolescente est morte d'un arrêt cardiaque. Sitôt. D'après un autre site, il y a un député qui dit que, pour sa part, lui, il a déclaré qu'elle s'était suicidée en avalant des comprimés. Au sein de l'hôpital. Donc évidemment, il y a eu des réactions. On voit bien que l'autorité judiciaire dément, enfin tous ceux qui vont dire que non, c'est pas vrai, elle est pas morte comme ça, quoi. D'ailleurs, il y a un célèbre footballeur iranien qui est déjà connu et a déjà eu des problèmes avec les autorités parce qu'il soutient les manifestations. Ce célèbre footballeur que je ne connaissais pas avant, et on ne connaît pas trop les footballeurs iraniens. Il s'appelle Ali Daei, j'espère que je l'ai bien dit. Lui, il est originaire d'Ardabil. Donc il a déjà eu beaucoup de problèmes, et sur son compte Instagram, quand même suivi par 10 millions d'abonnés, lui, il a affirmé ne pas croire aux thèses de l'arrêt cardiaque ou du suicide, les qualifiant de rumeurs. Là-dessus, l'autorité judiciaire a évidemment démenti en disant « Si Ali Daï a des preuves de ce qu'il avance sur la mort de l'écolière d'Ardabil, il devrait les présenter aux responsables concernés le plus tôt possible. » Voilà. Et il qualifie les propos du footballeur de « fake news
». Ouais, voilà. Du standard.
Voilà. Donc, on en est là. On ne vous mettra pas à jour le nombre de morts au sein des manifestations qui ont lieu depuis le 16 septembre, hein, suite à la mort de Mahsa Jina Amini, on va l'appeler comme ça, on va rajouter Jina. Et voilà, bon, ça c'est les dernières nouvelles qu'on a pu avoir de l'Iran.
Excuse-moi, mais on dit écolier, mais c'était une collégienne, une lycéenne.
Alors là, elle avait quel âge ? Elle avait 15 ans.
Ah oui.
Donc, 15 ans. Donc, 15 ans. Entre collège et lycée, quoi. Donc voilà. On vous avait parlé aussi de la prison, là où il y avait eu des heurts. Et en fait, pour préciser un peu ce que j'avais dit la semaine dernière, l'endroit d'où est parti le feu, ils avaient accusé que c'était les prisonniers qui avaient mis le feu à des fringues qui étaient en attente d'être nettoyées et tout. Et pour avoir relu un peu plus précisément l'article dont je m'étais servi, on s'aperçoit quand même que ce lieu était fermé. À cette heure-là, à l'heure où le feu a pris, ce lieu était inaccessible aux prisonniers. C'est-à-dire que c'est un lieu qu'ils utilisaient aussi pour les prières, mais beaucoup plus tôt, et qui est refermé en fin de journée, et le feu a pris une ou deux heures après. Donc quand le gouvernement annonce que c'est les prisonniers qui ont mis le feu à la prison, eh ben là encore, on peut en douter très fortement. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de news cette semaine sur ce qui se passe en Iran, mais je crois que c'est, voilà, ça veut tout dire aussi, quoi.
Oui, de toute façon,
on peut s'inquiéter pour eux toujours et puis soutenir de toutes les façons qu'on peut dans nos pays.
Et là, globalement, maintenant, tu n'as que de la com du régime qui sort. Hein, de moins en moins, c'est dur d'avoir des infos qui sortent autres que celles du régime en Iran.
Oui.
Moi, j'avais lu un truc la semaine dernière où le régime annonçait que c'est bon, là, ça se calmait, les manifestations.
Oui.
Ça s'est soufflé.
Alors peut-être qu'il faudrait essayer de suivre le compte Instagram du footballeur Ali Daï pour avoir plus d'infos. Il y a quand même 10 millions de personnes. Maintenant, ils ont peut-être bloqué son compte aussi. Hein. Voilà. Donc c'est pour le point Iran de la semaine. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus.
Donc voilà. Après, est-ce que quelqu'un a quelque chose encore dans s'informer autrement ?
On pourrait parler vite fait de ce dernier article qui nous a été envoyé. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui encore ? Qu'est-ce que tu nous lis, Kevin, ce lundi 24 octobre ? Ça, c'est de l'attention, c'est de l'info chaude, ça.
Ouais, là, je m'étonne parce que je suis sur le site du Telegram. Non, c'est pas s'informer autrement, mais je m'étonne parce que je crois qu'il y avait une action qui était prévue le 5 novembre, donc on n'avait pas prévu forcément d'en parler sur le site de la cantine au Relec. Et là, je vois que la société Bro Léon et la Gage a commencé l'abattage de pain. Ce qui n'était pas prévu, a priori, puisque je pensais que...
Ah, ça, c'est le jardin de...
Tu sais, c'est la cantine, c'est à côté du Spadium, là, au Moulin Blanc.
Ah oui.
Ouais. Donc, voilà.
Il y avait une lutte en cours pour éviter qu'il...
Je m'étonne. On va se renseigner.
Ouais.
Oui, c'est confirmé. Cette scène désole les membres du collectif des amoureuses et amoureux de la rade qui ont été pris de court ce lundi matin. Donc, en fait, je pense que ce début d'élagage ou ce début d'abattage n'était pas du tout prévu pour aujourd'hui.
Donc on rappelle que c'était un projet immobilier tout pourri, un peu trop près des côtes, quoi, encore une fois.
Hyper près des côtes et puis sur un terrain, de toute façon, où c'est démontré, c'est sous la flotte. On en parlait hors micro avant l'émission, que c'est sous la flotte dans très très peu de temps. Il y a une carte qui a été sortie, alors je pourrais pas la retrouver là tout de suite, mais si on me laisse le temps d'une pause musicale, je pourrais retrouver cette fameuse carte qui donne à peu près l'état de la montée des eaux à 10-15 ans, quoi. C'est un gros projet dégueulasse de toute façon, et puis on abat encore des arbres.
Voilà. C'est des immeubles de luxe.
Oui. Je pense que c'est pas pour faire du... Voilà, ils vendent peut-être le truc en disant que c'est pour la mixité sociale. Genre, ils auront peut-être deux HLM dedans, j'en sais rien. Non, en vrai, je sais pas. On se renseigne et on vous rappelle après la pause musicale qui ne serait, je ne sais pas, trop tarder. Enfin,
moi, je parlerais bien d'un. Ouais. Vu qu'on était dans s'informer autrement, je suis tombé sur un nouveau site d'information au niveau. Enfin, c'est pas nouveau, parce qu'apparemment, ça fait 2-3 ans qu'il y a quelques articles qui tombent en gros tous les 15 jours. C'est un site qui s'appelle PenBase. Alors, c'est pareil, on vous mettra les liens dans l'article. PenBase, PENBASE.BZH. Qui, en fait, c'est un journal indépendant, hein, avec un regard indépendant sur l'actualité bretonne. Et ce que j'aime bien, c'est que dans son éditorial, PenBase dit « un devoir d'impertinence ». Ça nous parle, ça, chez Piquet. Et comment je suis tombé sur ce blog, sur ce, je ne sais pas comment on pourrait le citer, y a un article qui vient de tomber qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en mars 2022, il y a le directeur d'Eau du Ponant, qui est la société privée locale qui gère, mais bon, c'est les employés qui sont de droit privé, mais c'est une société publique qui gère l'eau sur Brest Métropole, quoi, et ses environs.
Et qui s'étend,
parce qu'il se développe, quoi, et ça marchait bien. Et il y a eu le directeur d'Eau du Ponant, donc ça s'appelle Eau du Ponant, tout le monde connaît ça à Brest. Le directeur a été limogé en mars 2022. Et apparemment, ça commence à faire causer, parce que, bon, vous savez déjà que François Cuyandre est maire de Brest. François Cuyandre est président de Brest Métropole. François Cuyandre est aussi PDG d'Eau du Ponant. Ça me pose un peu problème. Là, ça commence à faire plusieurs casquettes sur la tête. Et François Cuyandre a une nouvelle première adjointe à la mairie, donc un poste qui prend beaucoup de temps, que je retrouve le nom de cette première adjointe, quitte à commencer à balancer. Elle s'appelle Karine Cause-Elouette. Donc, elle est nommée première adjointe à la mairie de Brest. Bah, tenez-vous bien, en fait, cette Karine Cause-Elouette est... je crois encore, toujours, elle est directrice du secteur usager, directrice de la direction usager à Eau-du-Ponant. Ouais. Alors, un poste, apparemment, on s'occupe des usagers, c'est un poste relativement important qui demande beaucoup d'investissement. Bah, Karine Cause-Elouette, en fait, depuis qu'elle est première adjointe à la mairie, elle ne bosse qu'à mi-temps sur ce poste-là. Donc apparemment, il y a beaucoup de salariés qui sont plaignés, enfin que c'était pas normal. Et de ce que j'en ai compris, le directeur qui s'est fait limouger, donc qui s'appelle Dufourneau, Eric ou pas Eric d'ailleurs, non, je sais plus, c'est très précis aujourd'hui, a été limogé parce qu'en fait, il avait proposé de soit passer à plein temps sur ce poste-là, soit de prendre un autre poste au sein d'Eau du Ponant, mais puis en tant que directrice, un autre poste de cadre, mais quand même en lui proposant un salaire équivalent. De ce que j'en ai compris, c'est très mal passé. Et bon, ce qu'on voit bien, c'est que François Cuyandre et Karine Cause-Elouette, ils bossent déjà ensemble à la mairie, ils doivent avoir quelques
accointances. Ils sont copains, quoi.
Ils sont copains, et on n'est pas à l'abri d'une décision politique du limogeage de l'ancien directeur. Savoir quand même que cet ancien directeur est soutenu par les ouvriers, les syndicats d'Eau du Ponant, et qui disait clairement qu'avec lui, ils pouvaient discuter. Enfin, il avait mis des choses en place qui leur paraissaient bien, donc ça n'a pas l'air de quelqu'un... Et parce qu'il est quand même accusé de harcèlement moral envers qui porte plainte. Je vous le donne dans le mille, Karine Cause-Elouette. Et une autre copine à elle, mais qui est aussi copine avec Cuyandre. Donc ça sent la grosse affaire politique. L'ancien directeur a porté plainte. Enfin voilà, il se bat contre la décision de limogeage, parce qu'en fait, il a été débarqué pour faute, pour faute grave.
Ah oui.
Donc il se bat. C'est en cours. Évidemment, comme c'est en cours, Monsieur Cuyandre est juste capable de dire qu'on ne commande pas parce qu'en ce moment, il y a une affaire en cours. Donc, on n'en saura pas plus. Donc, c'est un article très intéressant. C'est Marc Dufourneau, ça y est, l'ancien directeur. Donc, c'est pour faute grave qu'il a été licencié. J'ai trouvé l'article assez complet. Il y a des sources, ils disent à peu près comment ils ont certaines informations. Donc voilà, j'ai trouvé ça sur le site PenBase, et ben, on vous mettra le lien. Moi, je vous invite à aller le lire parce que on découvre un peu plus les rouages, les méandres de comment fonctionne Audubonnant. Et il y a un enjeu, hein, parce que ce truc tourne bien quand même, parce que je vous le rappelle, c'est quand même qui gère, qui achemine l'eau de 300 000 personnes autour de Brest, hein, ouais, et ses environs. Donc il n'y a pas intérêt à ce que ce truc-là se casse la gueule. Parce que si en plus, imaginons Marc Dufourneau gagner son procès, c'est contre Audubonnant qui l'a obligé de le faire. Mm-hmm. Donc c'est Audubonnant qui serait, qui devrait payer une prune s'il y avait quelque ouais. chose, et qui pourrait foutre cette société publique locale. Oui, SPL, c'est société publique locale. Tout à l'heure j'ai dit privé, c'est public.
Ouais, c'est quand ils ont récupéré la régie de l'eau à Veolia il y a 5 ans, je
pense. Voilà. Donc c'est une société publique, mais les ouvriers et ouvrières, eux, sont du droit privé. Bon, c'est des trucs comme ça, c'est assez complexe. Et du coup, j'en ai appris pas mal là-dessus. Mais voilà, moi, j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur cette histoire, de suivre un peu. Il y a eu quelques articles sur le limogeage de Marc Dufourneau dans le Télégramme. Il y a eu quelques articles qui suivent un peu ça, mais de loin. Et on va essayer d'aller en chercher un peu plus parce que... Bon, il va être temps que Monsieur Cuyandre, il dégage un peu de tous les postes qu'il a là. Mais moi, je comprends même pas qu'on puisse être. Alors déjà, et maire. Bon, admettons maire et président de la métropole.
C'est une chose.
Mais je sais pas, quand t'es élu, t'as encore le droit d'être PDG de quelque chose ?
Bah, j'imagine que c'est passé dans une commission, machin truc munch, en disant que ça faisait pas de délit. J'ai oublié le nom d'initié, voilà. Tout à l'heure, on parlait du pantouflage au sommet de l'État. Bah là, c'est du pantouflage au sommet de la ville de Brest.
On est pas mal à Brest là-dessus. Ouais.
Audubonnant, donc c'est une régie publique. Hein. Ça a été quand ils ont cassé le contrat de Veolia il y a 5 ans.
Mmh. En fait, il peut être. Je pense qu'il peut être président. En fait, il est président. Il a des. C'est un peu comme quand tu sièges. Enfin. T'es à la fois PDG et que tu sièges dans d'autres conseils d'administration. En fait, en tant que maire, il siège aussi dans plusieurs commissions au sein du CHU, par exemple. Enfin, c'est vraiment pas un truc où il pourrait être soumis à conflit d'intérêts ou des choses comme ça. Il n'a pas de rémunération par rapport à ça. Enfin, je pense pas.
Faudrait regarder son poste de... Enfin, c'est quand même un beau conflit d'intérêts parce que quelque part, quand tu es PDG de la boîte qui fait les travaux pour l'eau et que les travaux sont payés par la ville...
Ouais,
Si tu veux, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, parce que tous les travaux là, qui sont entrepris sur les réseaux à Brest, c'est la ville de Brest, j'imagine, qui paye la société Audubonnant pour réaliser les travaux. Donc, c'est le maire qui décide des travaux, avec Brest Métropole, dont il est aussi dans les trucs. Mmh. Et à la fois, il est PDG de la boîte qui fait les travaux. Ouais. C'est un peu bizarre. Tout en sachant qu'Audubonnant, ils sont en train, en ce moment, ça devient une grosse boîte.
Mais après, ça peut être aussi... Alors, je le défends pas, j'ai pas lu le truc dans le détail, mais est-ce que c'est pas un truc genre une présidence, honoraire ou non, je sais plus. Mais en gros, voilà, c'est en gros, tu touches pas de thunes, et c'est juste un poste de représentation, quoi, on va dire, quoi.
Ouais, faut voir s'il est pas décisionnaire, en fait. Quoi.
Ouais.
S'il est décisionnaire de certaines choses, ça fait quand même un peu tendancieux, quoi. À voir, j'imagine que les statuts d'Audubonnant sont consultables facilement sur Internet.
Bah, tu vois, il y a un truc qui est marrant. Donc, t'as Cuyandre en PDG. Devine qui y a en administratrice. Ah, administratrice. Tiens,
ping. J'ai peur de saturage, merci, Seb.
Hein ? Dans les administrateurs, mais là, c'est une administratrice.
Je sais pas.
Bernadette Malgorn.
Ah oui, mais voilà.
Tu retrouves les guéguerres politiques qu'il y a déjà au sein des municipalités, tu retrouves dans l'autre société qui gère la flotte, c'est assez incroyable, quoi.
Alors, en fait, je pense que c'est un peu comme dans certaines assos. En fait, ils ont une obligation d'avoir une représentation des élus municipaux. Je pense, alors c'est pas du tout la même échelle, mais par exemple dans les patronages laïques, t'es obligé d'avoir dans ton conseil d'administration des personnes qui sont élues, quoi. Et là, je pense qu'ils se répartissent un peu les trucs. Et c'est, à mon avis, c'est en tant qu'élu que Malgorn se retrouve aussi là-dedans, quoi. Mmh. Donc, je sais pas.
Faudrait regarder, voir s'ils ont des indemnités et tout ça, parce que c'est ça plutôt qui est bizarre, quoi. Parce que autant un patronage laïque, ça me choque pas. Ouais. Mais bon, un patronage laïque, c'est pas censé brasser des millions et faire du chiffre d'affaires. Tandis qu'au Duponant, c'est une boîte qui brasse. Donc, et qui, en plus, qui devient global, hein, parce qu'au Duponant, ils sont devenus la régie du côté de d'Aulas. Ils commencent à démarcher du côté de Crozon. Ils étaient en bisbille avec Landerneau pour devenir aussi la régie de flotte de Landerneau. Donc, si tu veux, ça devient quand même un peu tentaculaire, quoi. Faut à creuser.
Ouais, puis c'est marrant aussi. Il y a un truc, dans cette histoire-là, avant de débarquer le directeur, il y a eu un pré-rapport qui avait été commandé, sûrement par Cuyandre, à une société privée. Je vous laisse découvrir ça, c'est assez extraordinaire quand même. ça sent la grosse histoire quand même en ce moment-là.
Ouais, il faut encourager les Brestois à s'intéresser à de la façon dont est gérée l'eau à Brest. Hein, ouais. Sachant qu'en plus, à Brest, l'eau, elle coûte horriblement cher. Hein. On est la deuxième ville de France la plus chère, donc au prix du mètre cube.
Oui. Donc, c'est... Deuxième ville.
Ouais.
Après Landunvez. Landunvez n'étant pas une ville, mais. Parce qu'apparemment, ils prennent cher à Landunvez. Non seulement l'euro, elle est polluée, mais en plus, il la paye super cher.
C'est peut-être géré par Eau du Ponant.
Ouais, peut-être.
C'est peut-être pour ça.
Bon, voilà, j'en dirai pas plus. On vous met le lien dans l'article. Et voilà, il s'appelle Brest, ville d'eau et d'histoire. On va la faire, cette pause musicale, tu crois, maintenant?
Yes, c'est parti pour, dans un premier temps, Strasbourg de, je sais pas comment ça se prononce, James Digges. Je sais pas, en feat avec Douskawa, c'est un feat, puis Nikon la planète de nos chers HK et les Saltimbanques.
Merci.
À tout de suite.
Yeah. Je peux pas tout dire en un freestyle car on y passerait la night, mais quelques années à Boustra, c'était pas vraiment youpi la life. James Digger.
J'ouvre l'armoire des anciens jours, de là où j'ai poussé hier, je vois mon petit costume de Strasbourg. Que je dépoussière, si j'avais tenu un journal, il n'y aurait pas eu de gros tics. Je me serais dit, je parle toujours de WAM et de mon caractère écotique. Parler de Stras, c'est quartier chaud, ma jeunesse c'est pas un cadeau. J'essaie encore de faire l'effort de déposer ce sac à dos. J'aimerais parler sans concession, mais j'imagine qu'en temps de saison, on ferait lever les yeux du curé si j'y faisais trop de confessions. J'aimerais croiser un spirituel qui pourrait me prendre par le bras, mais j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de ciel et que mon juge ce ne soit moi. Avec Reden, Project on chante et j'y repense toujours depuis. À tous les freestyles dans ma chambre quand il faisait des jours de pluie, lui. Qui débarque de Guyane et moi qui arrive tout juste d'Allemagne. Quand on a créé le TK ici, on devient référence locale. On parle succès imaginaire qui part des songes. On nous aime déshumaniser, c'est peut-être ça la part des anges. Si c'est l'est, des anges déchus et délestés. De leurs ailes ils laissent des plumes tombées, des vestes. Et je m'en bats les reins qu'on m'aime. Parce que quand je me mets à rapper, j'entends ah ouais putain quand même. Faut savoir où tu vas quand t'as la tête qui tourne. Faut savoir d'où tu viens, Strasbourg, Strasbourg. C'est là où y'a des putes, c'est là où y'a mes potes. C'est de là que part mon amour, Strasbourg. Ils me balanceraient du haut de la berge, 15 minutes dans une nasse qui coule. Juste pour voir si je suis une sorcière, c'est comme ça qu'on fait à Strasbourg. Là où la pauvreté sévit, où j'aime pas trop y voir de môme. Et j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, un scooter brûlé dans le hall. Car même nos mots d'amour n'étaient que des homélies amères. Et puis toutes nos nuits d'amour, une tauromachie sans mise à mort. J'ai l'impression d'être un sextoy à l'âge du démon du bavant. Je sais pas pourquoi, mais les bad boys ça fait rêver les étudiantes. Au moment de quitter l'enfance, j'avais déjà compris d'avance que la solitude débutait. Et depuis ne m'a plus quitté, j'ai grandi dans des parcs sombre où j'ai l'habitude de trébucher. Je connais bien ces partitions étalées sur mon trébuchet. Et si mon rap défoulait les foules, excitant comme un film de boule, c'est pas j'arrêtais pas de rapper avant qu'ils aient la chair de poule. Ce sera si long de voir le ciel, il n'y a pas de Simon de Silène. Nos seules lumières du jour étaient des lumières artificielles. Même si tu sais, si c'est l'est, des anges déchus et délestés. De leurs ailes ils laissent des plumes tombées, des vestes. Et je m'en bats les reins quand même. Parce que quand je me mets à rapper, j'entends ah ouais putain quand même. Faut savoir où tu vas quand t'as la tête qui tourne. Faut savoir d'où tu viens, Strasbourg, Strasbourg. C'est là où y'a des putes, c'est là où y'a mes potes. C'est de là que part mon amour, Strasbourg. Je suis de l'époque turntableiste et tous mes potos font des rimes. Pourtant aucun rappeur d'ici ne m'a invité en featuring. On n'était pas des petits marrants, mais sans parents, des pygmalions. Maintenant inquiétant comme d'enlever une épine de la patte d'un lion. Je suis renvoyé de 5 lycées, autant de conseils, de discipline. On fait un dossier en béton, mais on voudrait que tu partes d'ici. Alors je vais partir loin, je me promets de m'écrire toujours. À mon revenir au moins, j'aurai du courrier au retour. Car l'amour n'est qu'un train qui part, ou un avion qui décolle. Y'a un de nous deux qui déconne, mais on est tous quelque part. Ce gosse qui rentre seul de l'école. Boustra quartier pas très calme, des caravanes de tzigoneurs. Mais pas des quartiers cathédrales, moi je viens de là où les cigognes meurent.
dans ces banlieues où à tes risques et périls sans règle du jeu, ils atterrissent. Faut que je le redise, je viens de là où les architectes ont un peu trop joué à Tetris. Yeah, dédicace à Caillou, turntablist, Cité Ampère, Polygon DAX, Redem Project, Tribuman sans pitié, Dago, Nano, DVK, DJ Saligo, Cadaz, Prison de l'Elzo, Boursera, Boursera.
Raconter des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Amen. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. De la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète.
Raison d'être.